pendant de s'adapter, on va s'arrimer au fait qu'Éric Lantier est au bout du fil, notre chroniqueur et polémiste du lundi. Salut Éric!
Hey, bonjour la gang!
Salut! Bonjour, bonjour!
Comment ça va mon ami?
Ah, très bien, il fait soleil ici, puis ça me rend heureux, on voit que les journées allongent, c'est tellement le fun, c'est encourageant.
Ça fait pas de tort, hein? Ça fait pas de tort, puis là j'ai l'impression que ma grippe c'est sa dernière journée ou avant-dernière, moi aussi, là, t'sais, dans le sens d'aller vers le printemps, ça rend joyeux. Effectivement, quelque chose qui peut affecter, par exemple, certains types de personnes, c'est, pardon, la technologie de nos jours, ça a changé le cerveau d'une génération et ça a pas fini avec l'intelligence artificielle qui s'en vient, l'informatique quantique, etc. Mais là, déjà, on a des résultats chez nos adolescents qui sont pas nécessairement positifs.
Oui, ben c'est ça. C'est Gene Twenge, qui est professeur de psychologie à l'Université d'État de San Diego, en Californie, qui a publié l'automne dernier une étude là-dessus. Et les résultats de cette étude ont été publiés sur la plateforme de la presse dimanche, donc hier.
OK.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que les jeunes qui sont nés entre 1995 et 2012 sont au bord de la pire crise de santé mentale depuis des décennies. Et ça, c'est à cause, justement, des cellulaires et des nouvelles technologies.
Il y a vraiment un lien de causalité. Parce que, personnellement, je pense que des problèmes de santé mentale, on en a parlé un peu récemment ensemble avec le suicide. Ça vient à toute l'histoire de l'humanité. On a tout le temps struggle. On a tout le temps eu 1000 problèmes à survivre. Quand tu deviens assuré de ta survie, ton cerveau, il en cherche peut-être des problèmes. T'es fait pour en avoir puis les gérer. T'en as plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas mettre sur un même pied des problèmes moins probants, peut-être. Mais le lien de causalité a été prouvé là, pour ce qui est de la technologie.
Oui, c'est ça. Ça a été débattu. Il y a des gens qui ont critiqué ces résultats. Mais par exemple, comme il y a une femme, Devora Hettner, elle a critiqué ses résultats, mais elle a dit qu'il y a quelque chose quand même qui est clair, il y a comme un fil conducteur qui rallie tout le monde, c'est qu'il y a une anxiété qui est reliée à la connectivité.
Okay.
Donc, tout le monde s'entend que le fait d'être connecté, pour certains, ça crée une dépendance, et pour d'autres, ben, ça produit de l'anxiété, et cette anxiété-là grandit, parce qu'il y a une attente qui est créée. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie d'un ado qui est relié avec son téléphone. Donc, l'approbation de ce qu'il a dit. Par exemple, est-ce qu'on va rire de lui?
Je vais avoir des likes, ou je vais avoir des doigts par en bas, ou pas de commentaires du tout, pas de partage. Ça, ça devient une façon de vivre, effectivement.
Exactement. Puis aussi, ce qui arrive, c'est qu'il y a d'autres chercheurs, c'est un article qui est intéressant, qui vont mentionner qu'à cause que les jeunes ont de plus en plus une facilité d'accès avec des téléphones. Les jeunes reçoivent comme cadeau de Noël ou comme cadeau de fête des téléphones cellulaires et ils les reçoivent de plus en plus jeunes. Ce qui arrive, c'est que les adolescents se couchent plus tard à cause de ça et ils arrivent à l'école plus fatigués, moins concentrés et ça affecte leur morale et ils ont plus de difficultés à passer au travers leur journée. Parce qu'ils sont intéressés, sont curieux à savoir qu'est-ce que les autres pensent d'eux, puis qu'est-ce qui se passe avec leurs amis. Puis donc, ça a un effet direct et un effet indirect.
Bon.
Alors, ils donnent des pistes aussi aux parents comment accompagner les jeunes avec ces outils-là pour limiter, si on veut, les dommages collatéraux. Alors,
okay.
C'est ça, je voulais en parler.
Avant d'aller là-dedans, M. Demers, avait quelque chose à amener?
Je croirais, moi, que ça devient une source de stress pour les jeunes là, qui sont habitués à la technologie, là, au cellulaire. Et puis, parce que eux ils sont concentrés sur le cellulaire, ils sont concentrés... Les questions avant qu'ils posaient aux autres, c'est si, est-ce que je suis bien ou est-ce que... Ils les posent maintenant par le moyen.
L'approbation était plus floue un peu, peut-être. Ouais. On dit, t'avais quelque chose à amener, tout ça?
Oui, mais une étude qui était portée aussi sur un peu sur le même problème, c'est-à-dire que le fait est de regarder toujours un écran, Le stimuli que ça provoque à l'intérieur de ton cerveau, c'est le lobe frontal, dans le fond, qui est atteint. Okay. C'est la même partie du cerveau qui va être excitée quand tu consommes des excitants comme la caféine, la cocaïne, la possession d'argent, des choses comme ça. Donc, je pense que quand tu ne travailles pas nécessairement cette dose-là d'euphorie dans ton cerveau, qu'elle est juste comme facile, les gens sont plus portés non plus à faire quelque chose. Puis à un moment donné, ben oui, t'as l'impression que t'es brûlé à la fin de ta journée parce que t'as eu plein d'informations, il y a comme genre une surcharge, mais ton corps, lui, en tant que tel, il se dépense pas. Fait qu'à la fin, quand t'arrives pour dormir, ton cerveau a été stimulé toute la journée, t'sais, genre 12 heures, mais ton corps a rien fait. Fait que quand t'arrives pour te coucher, ton corps, quelque part, lui, il est pas là.
Intéressant.
Ouais, mais par le cellulaire, t'as une foule d'impressions, t'as une foule d'idées, t'as une foule d'opinions, mais t'as une perte de contrôle avec ta réalité.
À part peut-être avec de la réalité virtuelle, là, on peut se dépenser un petit peu. Je te laisse aller vers les solutions, Éric Lantier, que tu voulais amener.
Ben, écoutez, c'est parce que je trouve ça intéressant. Il y a plusieurs pistes. Je n'entrerai pas dans toutes les solutions, mais une que j'ai retenue qui est intéressante, c'est que, en tant que parent, d'aller voir les jeunes et plutôt qu'essayer de fouiller dans son téléphone pour voir ce qui se passe, lui demander comment fonctionnent les applications et comment justement utiliser certaines applications pour leur démontrer un intérêt et en même temps le faire sur leur appareil, par exemple. Leur dire, bon, mais montre-moi comment ça fonctionne, par exemple, Snapchat. Pourquoi tu utilises ça? Et démontrer un intérêt, puis aussi en même temps voir jusqu'où ils sont captifs de ces plateformes-là.
Ça pourrait aider pour les personnes plus vieilles aussi à comprendre le fonctionnement de ces plateformes-là, puis qu'on n'ait pas des discussions sur une photo qu'on a mis il y a 3 ans qui pop d'un coup dans nos notifications Facebook, mettons. Intéressant, mais il y a aussi un genre de solution. Donne-moi ça ici, va jouer dehors, puis sac-moi à paix. Ça peut être...
Je suis pas contre ça.
Es-tu d'accord avec moi, Guy, que... Si on avait eu cette technologie-là quand on était jeune, on n'aurait jamais joué dehors, nous autres non plus.
Ben,
la dépendance se serait faite. On n'est pas meilleur que l'autre génération. Je me souviens, on arrivait au club vidéo lundi matin. Ma mère, elle mettait son hypothèque, son mortgage directement sur le comptoir pour partir avec un Nintendo. Puis on le prenait le samedi matin parce qu'on le voulait jusqu'au dimanche soir. C'était comme 1-24 heures. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'expertise.
Ça marchait pas. Moi, chez nous, ça.
Rapport des tremblements de terre, moi.
Même la télé. Lâche la télé, va jouer dehors. Fais quelque chose.
On y allait d'emblée.
Mais si on soupait ensemble, puis on laissait, si on coupait le cellulaire, je pense que...
Ça serait déjà une belle avancée.
Ça serait déjà beaucoup.
Effectivement.
Je pense que maintenant, avec le cellulaire, autant que dans le temps, parce que dans nos temps, c'était pas le cellulaire, mais les Nintendo étaient là, puis la TV était là, je pense qu'il y a un contrôle de la part des parents qui doivent être fait. Moi, chez nous, oui, on avait le droit de jouer à des jeux vidéo ou d'écouter la TV, mais la semaine, c'était une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, dépendamment de l'âge qu'on avait. Puis la fin de semaine, t'avais droit à une heure aux jeux vidéo, mais à part ça, pas que ton bicycle va t'en jouer dans la rue.
T'sais. Là, ça y est, nos parents vont se faire traiter de Gilbert Sicotte. Non, les gens ont droit, les gens ont droit. Je veux aller vers un autre sujet, la liberté d'expression. Éric Lantier, tu voulais mettre quelques mots là-dessus aujourd'hui.
Ben c'est ça. Je voulais réagir à un article qui a été publié sur la presse plus qui s'intitule « La liberté d'expression inclut le droit de choquer ». C'est un article de Vincent B. Melançon.
Oui.
Un article d'opinion. Je trouvais ça intéressant. Et moi ce que je souhaite, c'est qu'on puisse développer au Québec et dans les médias traditionnels, davantage une culture de débat et sortir de la pensée unique. Et on est souvent emprisonné dans la pensée unique. Et malheureusement, on n'a pas tant que ça une culture de débat. Il faut que tout le monde pense pareil, à quelques exceptions près. Et moi, j'ai quelques idées là-dessus.
Les changements climatiques. Personne ne remet ça en question, mais il y en a pour les causes supposément humaines qui vont dire... Ah, j'ai des recherches scientifiques qui disent le contraire. Et là, ils peuvent être plus écolos que les écolos. Mais non, là, c'est trop compliqué. On te borde d'un cégep pour une conférence, comme c'est le cas pour Rénal Duberger, qui, en passant, devient chroniqueur occasionnel dans Politique Correct à partir de prochainement. C'est vrai que il y a au Québec un manque de ce côté-là. En France, on a plus de propension à se tirer la pipe, puis on s'en veut pas après.
Non.
J'ai l'impression qu'on est un peu comme entre les deux. Avec les États-Unis, l'élection de Donald Trump, ça a déchiré des familles. C'est passé un peu débile, ça. Il faut qu'on travaille ça, j'ai l'impression. Puis ça devrait être amené avec l'éducation. Le débat est sain. Un cours, là, dans le, je sais pas, moi, comment ils appellent ça, le cours sur les religions, là, éthique et culture religieuse, ouais. Ben, éthique. Le débat, c'est sain.
Bon, ouais, c'est très bon.
Parce que l'esprit critique fait défaut aujourd'hui.
Oui.
Je veux dire,
peut-être.
Parce que j'écoutais une émission comme ça, là, puis il disait, si on n'a pas la même opinion, ben, t'es plus mon ami. Je veux dire, c'est quand même assez grave.
C'est capoté. Assez
capoté. On a un fort besoin d'approbation. Ouais. C'est fondamental, c'est manger, dormir, être aimé, mais je pense qu'encore plus loin, on a besoin de désapprobation. On a besoin d'avoir un débat pour dire, là, je comprends ton idée, là, sauf que, oublie ça, buddy, là, tu sais, si tu gardes cette idée-là pendant encore trop longtemps, tu vas te perdre.
Faut c'est... éprouver ses idées, tout le temps.
Oui.
Exactement. C'est la preuve, là, c'est qu'au Québec, on n'est pas capable, mais puis ni au Québec, ni au Canada, d'instituer une culture de référendum sur les enjeux sociaux.
Ouais.
On a peur de brasser les choses, de changer les choses, de pousser la réflexion, de trouver d'autres solutions. Et je veux dire, aux États-Unis, là, dans plein de villes, dans plein d'États, il y a des référendums sur plein de questions. Puis nous, au Canada, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un référendum sur un enjeu social? Moi, je me souviens pas d'en avoir entendu parler jamais de ma vie.
J'entendais François Gendron, on va nommer la station, il était à Choix tout à l'heure pendant mon... J'étais sur la route. Et il disait, on a réussi à rendre un référendum, cette notion de référendum-là, totalement négatif.
Mm-hmm.
Ouais. C'est
capoté.
Ouais.
Et je pense qu'il y a le doigt sur quelque chose.
C'était la meilleure source de débat.
Effectivement.
Le référendum.
Ben oui. Moi, ça a déchiré les familles. Pas tant que ça non plus. Ça a fait qu'on s'est remis en question. Puis ceux-là qui sont pas capables d'endurer leur opposant, ils ont probablement appris aussi avec ça, puis finalement, peut-être qu'ils sont un peu plus capables après cette épreuve-là.
C'est ça.
Voilà. OK, on a un petit détour justement parlant de péquistes à faire avec ce qui se passe du côté du Bloc. Tu voulais saluer Martine Ouellet, pour qui ça va pas très bien pendant que justement à
ouais,
RDI,
c'est ça,
on voit le démissionnaire là, qui était leader parlementaire.
Ouais. Mm-hmm.
Ouais, tout à fait. Et puis, c'est sûr que... Je pourrais vous dire que Martine Ouellet n'est pas sortie de l'auberge, pour ne pas dire n'est pas sortie du bois, parce que, écoutez, déjà en partant de diriger un parti souverainiste comme le Bloc québécois ou même le Parti québécois, c'est pas une mince affaire, parce que les souverainistes ont toujours été une coalition arc-en-ciel qui, évidemment, penche toujours plus vers la gauche. La chaloupe est toujours plus pesante du côté gauche.
Ouais.
Mais ce qui arrive, c'est que là, on voit que Martine Ouellet, elle n'est pas une vraie leader. Elle est faite pour être une chef d'entreprise. Elle n'est pas faite pour diriger un parti politique.
Ou ministre, ou tu sais, porte-parole en quelque chose, est au courant de ses dossiers, ou mairesse, ça verrait. Mais un parti comme des partis souverainistes, là, ça prend quelqu'un avec une trempe du côté des relations sociales d'un autre. À Kaby, j'ai bien l'impression qu'elle n'en a pas pour longtemps.
Non, ça exactement. S'en vient. Mais parce que ouais, c'est clair qu'elle a des capacités pour diriger, pour mener, mais elle n'est pas une leader rassembleuse. Elle n'a pas réussi à mettre les députés à sa main. Elle n'a pas réussi à se faire aimer puis à développer une crédibilité au sein de sa propre équipe. Et malheureusement, justement, elle a voulu y aller, comme on dit en beau québécois, un peu trop raide.
Ouais.
Et,
tu sais, sa gang, c'est peut-être une gang de paupiètes aussi, mais tu sais, là, tu viens d'être nommé, fais ce qu'ils veulent, dis-leur ce qu'ils veulent entendre, puis flatte-le dans le sens du poil un peu, les remises à leur place peuvent attendre un peu, c'était la priorité, puis elle n'a pas eu l'intelligence d'aller en ce sens-là, mais c'est pas grave. Jean-Martin Hossan a commandé le retour de tous les exils, là. Alors, elle pourra revenir au Parti québécois et écrire un poème. Non, mais...
On veut l'avoir à Poitou-Trembles aussi.
Ouais, je sais pas, là. On voulait parler de ça, justement, un petit peu ensemble, Éric. Comment tu vois ça, le retour de l'enfant prodigue?
Moi, je dis que Jean-Martin Hossan aurait été, je pense, un meilleur leader pour le Bloc québécois, personnellement, que Martine Ouellet.
Ouais.
Je pense que oui. Il aurait développé quand même une certaine crédibilité, c'est un gars à gauche, c'est un gars qui a réussi à mobiliser les jeunes en mettant sur pied Option nationale. Je pense que c'était le candidat, mais il était pas prêt à ce moment-là. Il a décidé de revenir avec le Parti québécois plutôt que Québec solidaire.
Ouais.
Option nationale a fusionné avec Québec solidaire, il me semble, et son grand ami, Gabriel Nadeau-Dubois. s'est joint à Québec solidaire, il semble que si c'est pas joint à Québec solidaire, c'est qu'il y a une stratégie en tête, c'est qu'éventuellement, aller chercher, après la prochaine élection,
ben oui,
trouver un moyen de fusionner Québec solidaire avec le Parti québécois ou de reformer un autre parti avec un nouveau nom. Mais écoute, c'est pas un hasard qui est revenu, puis c'est pas un hasard qu'on parle de Pierre-Carl Péladeau comme un retour. Il y a quelque chose qui se trame, surtout avec Jean-François Lisée, qui est un stratège. En politique, il n'y a rien qui se fait pour rien, tout est récupéré. Attends. Donc, il y a quelque chose qui va se passer après les élections.
Moi, j'ai l'impression qu'il est là parce qu'il sent que Jean-François Lisée va se river le nez à un mur et que donc après, il y aura une course à la chefferie. Il pourra la gagner et de devenir le chef du Parti québécois. Puis aussi, tu sais, Québec solidaire, t'es pas élu à Québec solidaire. Il y en a deux. Là. Il y en a combien? Trois maintenant? Bon, c'est très précaire de se présenter dans ce parti-là. T'as pas beaucoup d'avenir devant toi. Il veut pouvoir nourrir sa famille. Puis en passant aussi, il y a Catherine Dorion là-dedans, que je sais pas sa relation avec maintenant, là, mais c'est peut-être tendu un petit peu, mettons, on va le dire de même.
Oui, mais c'est clair que si Gabriel Nadeau-Dubois, justement, il a réagi au fait que Jean-Martin Hossan s'est joint au Parti québécois, ses propos ont été, comment je pourrais dire ça, c'était de bonne guerre. Il a encouragé son ami en disant « c'est tout à fait naturel, c'était son parti d'origine, tout ça ». Donc, si Gabriel Nadeau-Dubois a réagi avec, comment je pourrais dire ça, avec un aussi grand calme, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui va se passer par la suite.
Peut-être.
J'ai hâte de voir ça.
Peut-être. J'ai vu Sol Zanetti qui l'a remplacé à la chefferie d'Option nationale. Avoir une réaction, oui, aussi, quand même... très modéré. Il n'y a pas d'attaque de lancer du tout, alors qu'il y avait moyen. Il a fait quand même une méchante contorsion. Oui. Le gars, c'est un souverainiste pressé. C'est pour ça qu'il est parti du PQ. Puis Lisée, il remet ça à dans un bout de temps. Alors, c'est vrai qu'on dirait qu'il y a une anguille sous les roches, ou sous la roche. Monsieur Demers.
On parle des équipes en guerre, en construction, alors le Parti québécois est en reconstruction.
Oui, mais ils n'ont pas nécessairement, s'ils perdent, ça n'amène pas des premiers choix au repêchage.
Oui, c'est ça.
Autant,
on parlait tantôt du Bloc québécois qui est d'une autre époque un peu, de l'époque un peu plus de la souveraineté et tout ça. J'avais le goût de récupérer.
De René Lévesque.
Catherine Levac qui faisait son premier spectacle à la salle Albarousseau dernièrement, puis qui disait genre la souveraineté, c'est comme Michel Richard, je sais que ça existe, mais j'étais pas là quand c'était hot. Là,
wow. On se laisse là-dessus, Éric, c'est trop bon. Merci d'avoir été là.
Salut, Éric.
C'est un plaisir.
On remet ça la semaine prochaine. Éric Lantier, polémiste, ancien directeur d'école, chroniqueur dans Politigui Correct. Il est 17h37. Merci d'être avec nous autres. Restez là, on a plein de beaux matériels de plus au retour de cette petite pause.